Vous écoutez Quad Meuf Summer Camp, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine et tout l'été. Accompagnée de l'une de mes acolytes, on parle aussi bien de sirènes que de poils, de charges maternelles, d'amour estival, de harcèlement en festival et de colo féministe. Je suis Clémentine Gallo.
Et je suis Kémis.
C'est parti! Bienvenue dans Quad Meuf Summer Camp. Pour ce nouvel épisode, on va aborder la question des romans de plage, ou beach reads en anglais. Alors, c'est quoi un roman de plage? Est-ce qu'un bon roman de plage féministe existe? On va en parler avec Kémis. Salut!
Salut Clem, ça va?
Bah oui, ça va, et toi?
Ouais, ça va.
Alors, pour entrer dans le vif du sujet, les romans de plage, ça désigne en fait tous ces romans qu'on lit durant la période estivale, qui sont censés être plus faciles à lire, plus légers et donc moins profonds. Alors, selon Julien Bisson, qui était rédacteur en chef de la revue Lire, qui a donc travaillé sur l'industrie du livre et la médiation marchande du livre, les romans de plage, c'est souvent donc des romans de poche, parfois des exemplaires qui sont sortis l'année passée et qui donc souvent sont moins chers. Et donc, évidemment, la saison estivale, c'est une période qui est plus prompte à la lecture et les maisons d'édition, évidemment, ont bien compris que c'était un moment où on pouvait toucher un public plus large et donc ont élaboré une stratégie commerciale. En conséquence, on n'est pas surprise.
C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il y a certaines personnes qui lisent qu'en été. Mmh. Donc Vincent Chabot, qui est sociologue à l'université Paris-Dauphine, explique également qu'on repère en fait un livre d'été à sa couverture. On voit qu'il y a une différence en France. On sait que les couvertures de romans ou d'essais ou de fiction sont plutôt sobres. Et les romans dits de plage ou les romans entre guillemets d'été ont des couvertures et des devantures assez attirantes, plus colorées, quoi.
Oui, et alors effectivement, là où ça nous intéresse de près, c'est qu'on peut constater une hiérarchisation symbolique au sein des livres, évidemment, puisque le roman de plage est considéré comme moins sérieux et se confond souvent avec le roman pour filles, je mets de gros guillemets. Donc typiquement, les parutions de Guillaume Musso, de Marc Lévy ou encore de Catherine Pancol ou Erika Leonard James, donc qui a écrit 50 nuances de Grey, sont considérés comme étant des romans de plage, donc seraient nécessairement moins travaillés. Et donc, on voit bien que le mépris du roman de plage concerne en fait surtout ceux et surtout celles, je pense, qui en écrivent, ne serait-ce que par cette appellation, mais ça concerne également ceux et surtout celles qui les lisent, puisque le plus grand défaut de la littérature de plage, c'est souvent d'être conçu par et pour les femmes. Donc, si on a bien compris, ce serait une écriture décérébrée, délégitimée. Et là-dessous, je pense qu'il y a un vrai mépris de classe. Alors qu'en fait, pour moi, la littérature de plage, ça concerne davantage un moment précis dans l'année ou dans une vie, et surtout une pratique de lecture, plutôt qu'un critère esthétique ou qualitatif. D'ailleurs, il faudrait nous interroger vraiment longuement sur ce qu'on considère aujourd'hui comme étant de la grande littérature et quels sont ces critères-là. Mais ça, ce serait l'objet d'un autre épisode, je pense. Et d'ailleurs, on peut rappeler que les romans, tout simplement, avant d'être une forme noble comme on la connaît aujourd'hui, ont d'abord été considérés comme de la littérature dite féminine, donc domestique, sans intérêt, tout en étant quand même vue comme dangereuse. Donc il ne fallait pas que les femmes s'inspirent trop de Madame Bovary et deviennent des empoisonneuses. Et on rappelle qu'aujourd'hui, ce sont quand même les femmes qui lisent en majorité, donc ce serait sympa de les respecter aussi comme lectrices.
Tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée que voilà, le roman de plage, il est fait un peu à la chaîne. C'est quelque chose d'assez commercial, ce que je trouve un peu ridicule et un peu hypocrite, puisque, après tout, l'industrie du livre est une industrie commerciale dans son ensemble.
C'est pas tellement un artisanat.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que, on a cité des exemples comme ceux de Catherine Pancol ou ceux de Erika James. Ça veut pas dire qu'ils sont pas critiquables, hein, notamment celui de 50 nuances de Grey qui est hautement critiquable sur plein de points, mais on constate quand même clairement que certains livres sont considérés comme plus honteux que d'autres et qui sont clairement sous-évalués.
Oui, effectivement, tu l'as dit, ce serait pas de la vraie lecture, donc il y aurait des pratiques de lecture légitimes et valorisées, et d'autres pratiques de lecture délégitimées et considérées comme pas très sérieuses. Et d'ailleurs, il y a un webzine littéraire qui s'appelle Electric Reads, qui a interrogé plusieurs auteurs et autrices sur cette question épineuse des beach reads, c'est-à-dire donc de la lecture sur la plage. Il y a notamment une autrice de romans américaine, Courtney Mom, qui dit, je la cite, « Il y a deux types d'invités non désirés, celui qui vient avec sa liste d'allergies et ses faux compliments à propos de ta déco, et celui qui est sympa et qui ramène du chablis et des chocolats avec des excuses. » Le roman de plage, selon elle, c'est un peu l'invité qui ramène le chablis. Les romans de plage, c'est l'invité qui amène quelque chose de nouveau dans ta vie. On a l'idée que les romans de plage sont plaisants et sans risque, mais ça ne veut pas dire que ce sont des lectures plus faciles. D'ailleurs, débarrassons-nous de cette idée de facilité. Ce sont des lectures plutôt bienveillantes plutôt que faciles.
Et d'ailleurs, toi, Clem, tu lis quoi à la plage ou à la montagne ou dans l'avion, dans le train? C'est quoi tes livres d'été ou de plage que t'as le plus lu?
Alors moi déjà j'ai l'impression que quand on parle justement de ces livres d'été et quand on regarde peut-être dans les librairies justement de gare ou d'aéroport, j'ai l'impression qu'on peut distinguer deux impulsions différentes, donc l'escapisme, la volonté de fuir, et peut-être aussi l'introspection. Mmh. Et pour moi il y a un livre qui fait vraiment la symbiose de ces deux élans, c'est Eat, Pray, Love, donc Mange, Prie, Aime, le fameux livre d'Ariel. Elizabeth Gilbert, le grand classique, puisque c'est donc un livre de voyage et en même temps d'introspection qui est lui aussi très critiquable, mais qui a eu énormément de succès. Mmh. Et d'ailleurs, il faut préciser que l'été étant venu, Elizabeth Gilbert vient de publier en anglais, en tout cas, un nouveau livre qui s'appelle City of Girls, qui a reçu d'assez bonnes critiques et qui parle d'une jeune femme qui arrive dans le New York des années 40 et voilà, qui va découvrir un peu la ville et sa propre vie à travers ça. Et moi, de mon côté, un beach read que je peux conseiller, c'est Sœurs d'un été de Judy Blume, donc la grande autrice des émois adolescents, voilà, qui écrit des livres très très progressistes. Là, c'est un livre sur deux amies d'enfance qui passent leurs vacances sur l'île de Martha's Vineyard. Et voilà, je ne vous spoil pas davantage, mais c'est très chouette. Moi, en tout cas, l'été, j'ai tendance soit à relire mes livres préférés, soit à rattraper l'année littéraire. Donc voilà, ce que j'ai pas pu lire pendant l'année, soit aussi à lire pas mal de polars, y compris des polars écrits par des femmes comme Anne Perry. Et je lis aussi pas mal de self-help, donc de livres de développement personnel, par exemple Tiny Beautiful Things de Sheryl Strayed. Donc c'était elle qui tenait la rubrique Dear Sugar aux États-Unis pendant longtemps. C'est un livre très sage, plein de très bons conseils. Et cet été, en français, sort le livre de Lucille Bélan, C'est compliqué.
Oh, trop que je le dise.
Qui est donc adapté de sa chronique pour Slate et de son podcast.
Elle est trop bien, la chronique.
Et toi, alors, qu'est-ce que tu lis l'été à la plage ou sur le bitume?
Bah, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de classiques de la littérature anglaise qui est écrite par des femmes, donc notamment l'un de mes romans préférés de Jane Austen, donc Orgueil et Préjugé. Donc je lisais beaucoup de romans.
Mais oui, mais c'est trop bien.
Mais oui, mais j'ai même un classement des meilleurs romans de Jane Austen, alors qu'il en avait 6, mais bon, bref. Et puis il y en a un qui m'a vraiment beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, c'était celui d'Agnès Grey, de Dan Bronté, qui est un peu moins connu que le livre de sa sœur, donc Emily Bronté.
Ouais, j'ai jamais lu.
Ouais, il est vraiment moins connu, il est plus petit et tout, mais j'ai vraiment dévoré. C'est l'histoire d'une jeune femme timide et réservée qui vient d'une famille désargentée qui décide de devenir gouvernante dans une famille riche de l'Angleterre.
Ça ressemble un peu au Haut le Hurlevent.
Ah non, mais grave. Mais tu vois, c'est beaucoup plus joyeux en fait.
Ah non, mais parce que les Hauts le Hurlevent, c'est pas un beach read.
Ah non, pas du tout. C'est le truc le plus déprimant du monde, quoi. Donc non, je ne recommande pas. Et puis après, je vais pas mentir. Et tu vois, j'ai encore cette honte alors qu'on devrait pas. Mais j'ai quand même beaucoup lu les romans de Catherine Pancol. Moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est léger. Enfin. J'aime beaucoup ce type de roman, donc j'avoue, vive la chiclite, quoi.
Alors, moi, j'ai jamais lu Catherine Pancol. Peut-être que tu pourras me prêter. Non, mais, je pense que moi aussi, j'ai intériorisé ce mépris de classe et ce mépris des autres femmes. Donc,
pas de souci, carrément.
Et alors, dans la pop culture, on en parlait tout à l'heure, certains romans dits donc de plage sont de vrais phénomènes qui dépassent les frontières de la littérature. Il y a deux incontournables, donc la série Twilight, mais aussi 50 nuances de Grey, qui ont été tous les deux écrits par des femmes, Stephanie Meyers et E.L. James.
Tu les as lus ?
Twilight, non. Et 50 nuances de Grey, je crois que j'ai lu le premier.
Oh, okay.
Et toi?
J'ai lu Twilight, les quatre.
Ah, ok.
Mais par contre, 50 nuances de Grey, franchement, ça m'est totalement passé au-dessus.
Ouais,
quoi.
Moi, ça m'est un peu tombé des mains, mais c'était pour le travail. Oh. Voilà. Mais après, j'ai vu les films.
Quels sont vos centres d'intérêt en dehors du travail?
Et vous? J'aimerais en savoir plus sur vous.
Donc, quoique, voilà, critiquable sur de nombreux aspects, notamment les relations entre les principaux protagonistes, ou encore la très mauvaise dépiction problématique des relations BDSM, donc chez E.L. James. C'est vraiment des beach reads qui ont été des succès en librairie, qui ont ensuite été adaptés au cinéma. Et il y a un autre exemple qui, pour moi, est un peu un contre-exemple, vu la qualité littéraire de l'objet. C'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Moi, là, je suis en train de lire le dernier volume, et en fait, je le lis au ralenti parce que j'ai pas envie que ça se termine.
Tu veux le savourer comme un petit gâteau.
Et pour le coup, c'est vraiment un livre qui a énormément de succès et qui est vraiment d'une très grande qualité littéraire, je trouve. Enfin, faut pas se priver, je sais pas si tu l'as lu.
Faut vraiment que je lise. En plus, tu me conseilles ça depuis des mois, mais j'ai toujours pas lu. Je pense que je vais essayer de le lire cet été.
Donc voilà, et alors cet été, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'actualité littéraire?
Ouais, carrément. Donc l'été, on sait que c'est un moment phare de vente d'essais, notamment politique. Si vous pouvez nous épargner le livre de Sarko et pas payer ses avocats, ce serait bien.
Merci.
et si, effectivement, vous en avez marre de croiser le regard de Zemmour ou de François-Olivier Gisbert au coin de votre Super U, moi, je vous conseille le livre « Ne reste pas à ta place » de Rokhaya Diallo qui vient de sortir aux éditions Marabout. Donc, il raconte notamment le parcours de la journaliste et prodigue des conseils pour se booster et notamment combattre le syndrome de l'imposteur ou de l'imposteuse, qui touche pas mal de femmes. Toujours aux éditions Marabout, ceci n'est pas un podcast sponsorisé par les éditions Marabout. Je suis obligée de citer le roman graphique de Sanaka qui vient de sortir. J'en avais déjà parlé, je l'attendais depuis des années et en fait, ça raconte la vie d'une héroïne, d'une jeune femme entre 20 et 30 ans, enfin qui a nos âges quoi. Qui vit à Paris et qui jongle entre vie amoureuse tourmentée, volonté de vivre de son art et réalité peu engageante au niveau financier. Donc, je pense que ça peut parler à plein de gens. Et toi, tu conseilles quoi, du coup, pour cet été?
Et alors oui, surtout Sanaka, on peut la suivre sur Instagram.
Ah ouais, c'est trop bien ce qu'elle fait. Suivez-la sur Instagram.
Alors moi, je vais travailler cet été, mais je vais me permettre une seule incartade. C'est d'acheter le dernier roman de Meg Wolitzer. Donc Meg Wolitzer, c'est une romancière américaine majeure, à mon sens, autant que Jonathan Franzen, sauf qu'elle n'est pas un homme. Mais elle mérite, à mon avis, autant d'égards que lui. Et d'ailleurs, elle est très, très reconnue aux États-Unis. Elle a écrit notamment Les Intéressants, La Doublure, enfin voilà, une dizaine de romans. Et là, est traduit en français son dernier livre, qui s'appelle La Persuasion des femmes, en français. Et ça parle d'une jeune féministe et de sa mentor féministe plus âgée. Donc je pense que le sujet devrait être assez passionnant et je lui fais confiance voilà, là-dessus. Bon, bah, je crois qu'on a un peu fait le tour de la question. Lisez bien, envoyez-nous vos listes de lecture d'été et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Quad Meuf Summer Camp. Merci, salut Kémis.
Salut Clem.
Quad Meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo,
présenté par Kémis,
réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, monté et mixé par Laurie Galigani, à la prise de son Ashley Tola, coordination Laura Cuissard.